Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'écho de ma commune. Et en l'occurrence aujourd'hui, ma commune, c'est Luret. Je reçois Alain Fillon, qui est maire de ce village depuis très longtemps. Bonjour Alain.
Bonjour Marie-France.
Combien de temps tu es maire de Luret ?
1984.
D'accord, tout ça ne nous rajeunit pas.
Non, non, non.
Bon, et tu as fait beaucoup de choses évidemment pendant toutes ces années.
J'ai fait avec d'autres, avec les différentes municipalités qui
bien
se
sûr.
Sont succédées,
alors,
dont j'étais le catalyseur, le maire, mais c'est vrai que...
Le maire ne travaille pas tout seul.
Tout à fait. En tout cas, dans ma manière de fonctionner, c'est toujours des décisions qui sont les plus largement partagées. Je pense que partagées d'ailleurs avec les élus, mais partagées aussi avec les habitants. On a pris l'habitude à Luret régulièrement de rendre compte de notre mandat. On nous confie un mandat régulièrement. On nous en a confié un en mars 2014, voici un petit peu plus d'un an. Il faut à chaque moment qu'on peut rendre compte, savoir expliquer ce que l'on a fait. Ou ce que l'on n'a pas fait. Jamais je me suis enfermé dans des programmes qui, surtout dans les moments que nous vivons, au fond, que se passera-t-il dans 2 ans ? Que se passera-t-il dans 3 ans ? Que se passera-t-il en fin de mandat, dans 5 ans ou 6 ans ? Personne n'est à même de pouvoir l'affirmer. Donc soyons plus humbles. Et à partir de là, c'est toujours des projets que j'ai voulu partager avec les équipes municipales en expliquant que parfois nous étions allés au-delà des projets présentés, et parfois nous n'avions pas réalisé, ça s'est produit rarement, mais ça s'est produit, nous n'avions pas réalisé des projets que nous avions pensé pouvoir mener à terme.
À l'impossible, il n'est tenu. Mais bien que tu parles d'humilité, il est bien évident que ton talent, c'est quand même de savoir t'entourer. Parce que c'est bien joli, on est maire, mais on est maire avec son conseil municipal, mais encore faut-il être soutenu par des gens avec qui tu es en accord. Et ça, c'est très important.
C'est très important. Des gens avec qui on est en accord, des gens qui ont la volonté de s'investir également, parce que la fonction municipale, pas uniquement celle de maire, c'est vraiment un engagement de tous les jours. Et à partir de là, c'est vrai que les choses se sont réalisées normalement, si je puis dire. Et puis aussi, parce qu'on peut l'aborder, j'ai toujours veillé à ce que les équipes municipales soient constituées non pas sur des paramètres politiques. J'ai toujours pensé qu'au fond, la bonne volonté, l'envie, la détermination, prévalait à l'action ou à l'étiquette politique. J'ai toujours mené des équipes, on va dire, pluralistes, de façon à ce que toute la population puisse être, au moins sur ce paramètre politique, être représentée. Mais je t'assure que, qui plus est surtout dans nos communes rurales, je pourrais presque dire dans toutes les communes rurales, ce n'est pas la politique qui prévaut.
Bien entendu, bien entendu. Et puis ça fait aussi une forme d'ouverture d'idées, tout simplement. Et des idées de gauche, des idées de droite, des idées du centre, il y en a des bonnes partout. Il est bien évident que dans une petite commune, ça doit être très appréciable de pouvoir profiter de toutes.
Tout à fait. Et il faut veiller, en fait... à pouvoir réaliser un certain nombre d'investissements qui puissent satisfaire à l'ensemble de la population et aussi qu'il y ait eu un débat, et je répète, un débat partagé avant. Il y a certainement une notion qui permet, où il y a un point qui permet de se donner une action, un cordon ombilical, le fait d'être né, d'être originaire d'une commune. Le fait d'être originaire fait que... Alors parfois, ça peut aller à peut-être des erreurs, parce qu'on ne peut pas vivre avec la nostalgie, on ne voit pas, on se souvient du village, tu évoquais le Loir-Clairet, moi je parlais du Loir-Clairet avant de parler de Luret, bien évidemment étant gosse, mais ça permet parfois de prendre certaines décisions que d'autres n'auraient pas prises. Je pense à un exemple très concret. À un moment donné, il y a eu sur ma commune, et avant que j'arrive aux affaires, il y avait un projet de réalisation d'habitat collectif. Et je m'y suis opposé, d'abord parce que je pensais que c'était pas bon pour ma commune, mais surtout parce que, étant né dans la commune, je ne pouvais pas voir ce village un peu défiguré par du béton.
Ça.
Par
tu
du
pouvais béton. Pas imaginer, voilà. Bien sûr. C'était non seulement les souvenirs qui s'en vont, mais la qualité de la vie.
Tout à fait.
l'immobilier est quand même présent, il y a quand même un marché important sur Louret. Oui. Bien entendu, avec, voyons, j'ai vu en 2015, 1614 habitants.
Fait, oui. Il y en avait 1000 en 1984.
Ah,
quand je suis arrivé aux affaires, quand j'étais maire, oui, voilà, il y a eu 600, il y a 600 habitants en plus en 30 ans.
60%?
Non, faut pas le voir comme ça. Il faut le ramener, il faut le lisser par rapport au nombre d'années. Mais là aussi, je pense que on a maîtrisé, je crois, le développement de notre commune et on voit aujourd'hui que, au fond, il y avait deux écueils diamétralement opposés dans la gestion. La première, ça aurait été de construire à tout va. Alors, on peut considérer que 600 habitants en 30 ans, ça peut faire beaucoup. Le deuxième écueil, c'est qu'il fallait quand même avoir un minimum d'évolution, de développement en termes en nombre d'habitants, en démographie, parce que sinon, on se privait de capacité à investir. Il aurait fallu répartir des dépenses de plus en plus importantes, ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, aujourd'hui avec confrontées à des recettes, elles, un peu en stagnation, voire en diminution. Donc, il aurait fallu répartir la charge sur un nombre d'habitants, un nombre de foyers pas suffisamment important. Et donc, comme on ne veut pas alourdir l'impôt, ça aurait conduit à ne pas investir. Donc, c'est ça le rôle d'un élu, c'est de trouver le juste équilibre entre je développe mon territoire, mais je le développe d'une manière harmonieuse, et tu l'as dit tout à l'heure, et d'une manière partagée. Je voudrais dire aussi que, en matière d'imposition locale, les impôts aujourd'hui, on vient de voter notre budget 2015 et je faisais la réflexion à mes collègues. En 1984, le taux des impositions, de l'imposition locale, je pense à la taxe d'habitation et aux taxes foncières bâties et non bâties, était plus élevé que celle en 2015.
Mais c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle pour tous les Lurésiens et Lurésiennes.
J'ai regardé les maisons, je me suis bornée aux maisons. Ça va de 130 000 euros à plus de 500 000 euros. Donc, il y a un éventail effectivement très large pour les maisons qui sont actuellement en vente sur ta commune.
Oui.
Et tu m'avais parlé aussi de réhabilitation horizontale. Quand tu étais venue me voir, j'avais trouvé ça extraordinaire de pouvoir réhabiliter des vieilles maisons. Ça aussi, c'est la sauvegarde d'un patrimoine.
Oui, il y a à la fois la réhabilitation de maisons anciennes qui s'est fait sur Louret. Je pense à d'anciennes fermes, etc., même des maisons individuelles, hein, sans qu'il y ait jusqu'à des cours de ferme. Mais c'est aussi la construction horizontale. J'ai jamais été opposé au logement social, au logement public locatif, qu'on peut appeler d'une manière très classique le logement social.
Parce c'est une obligation maintenant déjà pour les communes.
C'est pas une obligation pour toutes les communes. C'est pas une obligation pour toutes les communes. En tout cas, c'est pas une obligation pour la commune de Louret. C'est un choix politique. Quand je dis un choix politique, j'utilise l'adjectif dans le sens de la gestion de la cité et pas de la politique politicienne. Pourquoi avoir fait des logements locatifs sociaux à un moment donné sur la commune de Louret? Parce qu'il y a une demande. Il y avait une demande et en particulier la nécessité de décohabiter des familles. J'ai vu un jour, je me suis aperçu un jour que dans une famille, dans un même foyer, il y avait 5 générations. 5 générations.
C'est chaleureux, mais quand même.
Et oui. Et donc, à un moment donné, on sait bien qu'il y a une cohabitation qui est quand même pas forcément facile. Et donc, il y avait une forte demande. On a fait une première tranche, là aussi, pas d'un nombre élevé de logements, et surtout pas en vertical. Nous l'avons fait en horizontal, des petites maisons, que l'on a fait il y a maintenant plus de 10 ans, il y a 11 ou 12 ans. On en avait fait une douzaine, 12 exactement. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le turnover dans ces maisons, il est très faible. C'est-à-dire que sur les 12 premiers habitants de ces maisons, de ces 12 foyers, il y en a encore 9 qui sont les mêmes. Ce qui veut dire que le logement, qu'on a offert, la petite maison, c'est pour ceux qui auront beaucoup de difficultés à l'accession à la propriété, ce que je souhaite de tout cœur au plus grand nombre, mais ça veut dire que pour un loyer modeste, ils se considèrent aussi comme vivant dans un espace qui est celui de ceux qui peuvent heureusement accéder à la propriété.
Bien sûr, c'est important. Thank you. qui décide dans une commune? Est-ce que c'est le maire et le conseil municipal? Ou bien est-ce que tu as des pressions du département, de la région, du gouvernement? Qui prend les décisions au final?
Les décisions, elles sont prises pour les compétences qui sont dévolues à la commune, elles sont prises par le conseil municipal. Elles sont prises par le conseil municipal puisqu'un certain nombre de compétences ont été transférées aux agglomérations, à notre communauté d'agglomération. On prend par exemple des décisions en matière de voirie, on prend des décisions en matière d'aménagement des bâtiments, etc.
Alors, l'école, qu'est-ce qui se passe pour l'école?
L'école, elle est entièrement l'école communale. Nos écoles primaires sont sous l'entière responsabilité des élus communaux.
Sauf d'ailleurs, pour... comme son nom l'indique, l'école communale.
Communale. Sauf pour les salaires des enseignants. Mais tout le reste est à charge, c'est l'État qui paye les enseignants, mais tout le reste, que ce soit dans ce qu'on appelle dans le jargon le clos et le couvert, l'entretien des bâtiments, le budget de fonctionnement qui est alloué chaque année à l'école, ça c'est une décision qui est purement municipale.
Éventuellement un agrandissement des bâtiments,
l'aménagement. Par exemple, tout ça c'est sous décision communale, mais quand tu parles de pression départementale, régionale, de l'État, etc., il y a une pression quelque part indirecte, puisque tous ces investissements se font obligatoirement avec des aides financières. Et les aides financières, aujourd'hui, le principal financeur de nos communes reste le département, qui est une entité, à mon avis, qui a toute sa place aujourd'hui dans ce qu'on appelle le millefeuille, parce que nos concitoyens critiquent souvent cette superposition de collectivités, sauf que la difficulté, elle arrive le moment où on dit, alors le millefeuille est important et on va supprimer,
on va
simplifier. Moi, j'entends tous mes compatriotes de l'Hexagone dire il faut simplifier le millefeuille. Je ne parle pas des normes, des rouages administratifs, je parle au niveau des collectivités. Quand il s'agit d'en supprimer
quoi?
Voilà, la difficulté, elle est là parce que chaque entité a son intérêt. La commune, ça me paraît, c'est comme dans un corps humain, la commune, c'est l'organisation de base, c'est la cellule, c'est celle qui constitue vraiment tout ce qui est...
36 000 communes.
Voilà, 36 000 communes, voilà, en France. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est là, et c'est là où nos concitoyens se sentent bien. On le contacte avec les élus, on le contacte entre eux, etc.
La galette des rois.
Par exemple, entre autres. Mais c'est vrai que ensuite, quand on remonte dans le millefeuille, supprimer une communauté d'agglomération, on voit aujourd'hui avec les compétences.
Là, on l'a créée déjà.
Voilà, et avec le recul. Enfin, elle existait déjà depuis 2003. Je crois que tout le monde s'y sent bien. Bon, il y a peut-être des collègues qui sont venus un petit peu pousser, un petit peu, il a fallu les pousser un petit peu pour venir, pour rentrer. Ils verront d'ailleurs, j'en profite pour le dire à l'antenne, ils verront avec le temps que ce sont ceux qui représentent les communes les plus petites qui pourront, je parle des communes, pas des hommes et des femmes, mais que ce sont les communes les plus petites qui tireront le mieux leur épingle du jeu de nos communautés. Les grandes villes, que ce soit par exemple pour ce qui nous concerne Dreux ou Vernouillet, ont des lignes de trésorerie, elles tirent des lignes d'aide sur des fonds européens, etc., que nous, communes rurales, nous ne pouvons pas ou difficilement accéder.
Bien, tu n'as pas droit à l'Europe, Alain ?
On a le droit, si, on a le droit à l'Europe indirectement, oui. On a le droit à l'Europe à travers des décisions et qui sont faites pour la communauté d'agglomération et dont bénéficient tous les habitants de cette communauté.
Mais alors les grandes villes, ça en direct.
Voilà, en direct. Et ont d'autres aides. Je prends par exemple la ville de Dreux ou de Vernouillet, quand ils font des réaménagements dans l'habitat, des aménagements de l'habitat, bénéficient de l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qu'on appelle l'ANRU. Nos communes rurales ne bénéficient pas de l'ANRU. Donc tout ça pour dire que le département est un financeur important des communes rurales. La région, avec ses compétences de développement économique, de formation des hommes et des femmes, a aussi sa raison d'être. Donc elle est là, la difficulté. Qu'allons-nous supprimer demain dans le millefeuille? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux, par contre, redéfinir les compétences de chacune et de chacun et faire en sorte que ces compétences soient des compétences spécifiques. Aujourd'hui ou hier, de moins en moins aujourd'hui, la difficulté pour des gestionnaires communaux, c'est dès l'instant où on veut investir, c'est d'aller chercher les financements. Et il faut aller chercher des financements qui se croisent. Et ça rend les choses compliquées. Au fond, si demain, on me dit « vous voulez agrandir l'école de Luré » et qu'on me dit « le seul financeur, le seul qui pourra vous aider, c'est le département d'Eure-et-Loire, je saurai où il faut frapper à la porte. Aujourd'hui, on frappe à plusieurs portes. C'est ça qui rend les choses compliquées et qui parfois vont jusqu'à décourager certains de nos collègues.
Ah oui, parce qu'il ne s'agit pas de frapper, il s'agit aussi que les dites portes s'ouvrent.
Tout à fait.
Ça, c'est peut-être le moins facile de l'affaire.
Tout à fait. Et quand je voudrais revenir sur le fait que les communes les plus petites tireront bénéfice de leur présence dans notre communauté d'agglomération, c'est autant pour des raisons purement financières de monnaie sonnante et trébuchante qu'aussi de services rendus. De services rendus, notre agglomération, par exemple, la communauté d'agglomération de Dreux, a un service juridique. À un service des marchés publics. Imaginons un maire aujourd'hui dans le fin fond, c'est pas péjoratif, de sa commune et de sa mairie qui doit monter un dossier d'appel d'offres. C'est très compliqué les marchés d'appel d'offres parce qu'il faut pas se tromper.
Donc on peut demander à la communauté d'agglomération.
On demande à la communauté d'agglomération en donnant les quelques éléments de monter.
Ils ont des juristes, ils ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut.
Tout à fait, de monter ce dossier. On est sûr que les étapes ne seront pas brûlées. On est sûr que la virgule et le point seront placés au bon endroit, parce que voilà un domaine où si l'on se trompe, bah on sait très bien qu'on n'a pas adopté la bonne procédure et qu'au bout du compte, on aura une entreprise qui portera réclamation, etc., etc. Donc il faut être sûr de soi. C'est ça, à mon avis, peut-être le principal intérêt qu'ont les communes les plus petites à se regrouper avec les plus grandes.
Évidemment, chaque strate, chaque petite strate du millefeuille a ses propres compétences.
Oui.
Est-ce que les compétences du département ont été définies ?
Alors c'est un sujet d'actualité, Marie-France. C'est un sujet d'actualité. Hier, les compétences du Conseil général tournaient autour de trois grands thèmes. Les solidarités, qu'on appelait hier l'aide sociale. Mais les solidarités, c'est aussi bien l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, qui nous rattrape à la fin de notre vie, pour un certain nombre d'entre nous. Si on veut revenir à la genèse, c'est la PMI, notre plus tendre enfance, le fait de pouvoir avoir une assistance infantile. C'est au cours de notre vie, éventuellement pour certains d'entre nous, le RSA, le revenu de solidarité active, parce que l'emploi a été perdu et qu'on ne peut pas abandonner les gens sur le bord de la route. Avec, il faut le reconnaître, un certain nombre de choses, parfois de dysfonctionnements qu'on peut trouver, et en tout cas des domaines qu'il faut améliorer. C'est aussi, par exemple, l'aide au handicap. Voilà les domaines des solidarités. La deuxième grande compétence du département, c'est la gestion des collèges, puisque les lois de décentralisation ont bien fragmenté, les écoles primaires dont on parlait tout à l'heure, dévolues à la responsabilité des communes, les collèges au département, la région gère les lycées et l'État gère les universités. Notre système éducatif français est bien compartimenté en ce qui concerne les compétences des différentes collectivités. Et la troisième grande compétence d'un conseil général, c'est la gestion des routes. D'ailleurs, parenthèse, notre département d'Eure-et-Loire, le premier département français avec ses 7500 km de routes départementales à gérer. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a repris...
Ça en fait du goudron, dis-moi.
Tout à fait. Une fois qu'on a repris les compétences des départements, il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle la clause de responsabilité générale, de compétence générale, où un département, bien évidemment, va s'intéresser aussi à l'économique. Comment un département ne s'intéresserait pas à une entreprise, je ne la citerai pas, qui hier était dans le 78, au bord du Houdanais, et qui décide de se délocaliser. Il était préférable qu'elle traverse la Nationale 12.
À Molette, par exemple.
La Nationale 12 pour se rapprocher de Dreux, plutôt que de s'enfoncer un peu plus dans le 78.
Ben ça, c'est sûr.
Donc, à partir de là, il est normal qu'un département mette de l'huile dans les engrenages pour que les choses puissent
se
faire.
C'est normal.
Thank you.
Évidemment, il y a le prestige de l'entreprise, il y a aussi la commodité des communications et puis l'emploi. C'est quand même très important. On en est où d'ailleurs pour l'emploi ? Comment ça se passe sur ta commune ? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui travaillent sur Dreux, beaucoup qui vont sur Paris ?
Alors, si... la répartition, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la répartition des gens actifs se fait surtout sur l'agglomération Dreux-Vernouillet. Mais on a une forte proportion, que je crois qui est aux alentours de 50 ou 60 personnes, qui tous les jours s'en vont, prennent le train ou leur voiture individuelle et s'en vont sur Paris. Alors 60 personnes sur une population active 18-60 ans qui se situe à peu près à 700-800 personnes. Donc c'est raisonnable, mais néanmoins ça reste encore important.
Et puis ces gens, donc, il faut leur organiser les week-ends et on en revient aux associations. On n'a pas terminé dans ces précédentes émissions. Ces associations, avant de parler des autres, sont financées comment ? Est-ce que la commune aide des associations ? Est-ce qu'il y a des lignes de crédit ?
Alors, les associations ont deux moyens pour organiser leurs recettes. La première, c'est en organisant elles-mêmes des manifestations diverses sur la commune. Je sais s'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aurais presque tendance à dire...
Il
n'y en a pas trop. Il se passe tous les jours quelque chose dans la commune de Luré.
Mais ceci étant,
c'est avant tout à travers des manifestations qu'elles organisent et qui sont très variées. Entre, je passe le détail sur les thés dansants, les lotos, les repas, les dîners cabarets,
etc.
Et la brocante, et les foires à tout, etc. Et puis, il y a aussi une deuxième source, qui est l'aide à partir du budget municipal. Nous avons sur Luré aujourd'hui 22 ou 23 associations et nous ventilons 11 000 euros de subventions tous les ans, pas uniquement aux associations lurésiennes, parce que nous participons aussi à financer des associations qui sont extérieures.
Je pense à
Radio Grand Ciel, parce que c'est un choix. Par exemple, pour ce qui est de Radio Grand Ciel, comme d'autres radios locales sur le Drouet, c'est parce que c'est une volonté de dire, voilà, nous soutenons les radios locales, et puis parce que les radios locales apportent beaucoup d'aide en ce qui concerne les communes, ou peuvent apporter, en dehors de leur mission principale, peuvent apporter de l'aide à travers une communication à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure. Je voyais tout à l'heure, en rentrant dans les studios, que quelqu'un apportait une note pour annoncer une manifestation
normal,
et donc
que Radio Grand Ciel n'est pas une radio locale mais une radio départementale,
oui, effectivement,
avec 4 émetteurs, ce qui est quand même très important, d'autant qu'on déborde évidemment sur les départements autour, mais non seulement ça, et sur Internet où nous sommes maintenant, et on peut écouter sur Internet les émissions qui passent, qui sont passées.
Une autre raison d'aider des associations qui n'ont pas leur siège social sur Luré, je ne les citerai pas toutes, c'est aussi de reconnaître un caractère, d'intervention assez général, assez étendu sur notre territoire. Il y en a qui travaillent sur l'ensemble du territoire, et puis aussi des Lurésiennes et des Lurésiens qui sont dans ces associations-là, qui n'ont pas leur siège social. Je prends par exemple le jumelage, le comité de jumelage. Il y a des Lurésiennes.
Le jumelage, venons-y. J'ai trouvé ça extraordinaire. Luré est jumelé avec Luré.
Oui.
Et Luré est en Virginie, aux États-Unis.
Tout à fait. Luré aujourd'hui est jumelé, enfin un rapprochement avec Luré USA. Ça date de l'après-deuxième guerre mondiale, des années 45-46. L'anecdote est la suivante. À l'époque, lorsque Luré a été libérée, le 15 août 1944, un soldat américain dans Luré a dit « Mais moi, je viens d'une région, l'État de Virginie », c'est un soldat américain issu de la Virginie, a dit « Mais moi, je connais un Luré en Virginie ». Et donc, à l'époque, c'était mon grand-père qui était maire de Luré. Et donc, à partir de là, quand il est rentré aux États-Unis, il y a eu une correspondance qui s'est faite. Il y a des chefs d'entreprise qui sont venus de Luré USA à Luré France, pour d'ailleurs distribuer un certain nombre de choses aux habitants de Luré, etc. Je me souviens toujours, enfin j'étais pas né, mais les archives m'interpellent en disant qu'il y avait un fabricant de chaussures qui était de Luré, Virginie, qui a fait le déplacement et qui a distribuer bon nombre de paires de chaussures, à l'époque probablement à tous les Lurésiennes et Lurésiens, puisqu'ils n'étaient que 250. Ils étaient c'est que formidable. 250.
Il est venu avec un petit conteneur et hop.
Voilà. Donc on a perpétué ces relations. Il y a 4 ans, des Lurésiens, des habitants de ma commune, ont fait le déplacement à Luray-Virginie. Mais Luray-Virginie est une grande ville. C'est une ville de 30 000 habitants.
Oh, ils me disent seulement 4895.
Non, c'est une ville très importante.
Bah,
c'est une ville très importante et qui est connue dans tous les États-Unis par ses cavernes.
Oui, j'ai vu les cavernes.
Voilà.
Et j'ai vu aussi une tour qui m'a semblé très intéressante. Elle s'appelle Singing Towel.
Oui.
Et je
peut-être
me suis
la tour d'où l'on chante.
Peut-être, voilà. Les chorales vont là-haut et avec l'écho, ça doit être magnifique. Tu connais ton homologue ?
Je ne le connais pas. Là, il y avait eu des échanges. Les personnes, moi, je n'avais pas pu me faire le déplacement de Luray USA. Mais en tout cas, on a envoyé des lettres, des messages, etc. Et on correspond régulièrement, une fois par an.
Enfin, voilà. S'il vient à Luray chez toi, bien sûr, tu l'amènes ici.
On vous le fera connaître.
Alors, il y a aussi des concerts classiques. Dans cette église Saint-Rémy, j'ai vu qu'il y avait des chorales instrumentales aussi.
Oui, oui.
Le salon de la photo.
Le salon de la photo, là, c'est parce que nous participons au salon photographique de Vernouillet.
Avec Vernouillet, il y a
un salon IN, ce qu'on appelle, et il y a le salon OFF. Et depuis que Vernouillet a institué ce salon photographique national, nous participons au salon OFF. Donc avec tous les ans des invitations qui sont faites en direction de photographes et qui viennent exposer en général l'espace de 1 ou 2 week-ends.
Et des expositions aussi non seulement de peinture, mais des collectionneurs qui viennent.
Oui, là aussi, c'est une initiative de privé. C'est une initiative de privé, d'amateurs de collection, et qui donc, depuis 20 ans, ont organisé tous les 2 ans, au début tous les ans, mais ils ont voulu aussi, pour ne pas tomber trop dans la routine, faire en sorte que de 2 ans en 2 ans, les collections présentées ne soient pas les mêmes. Donc c'est un travail qui est énorme. Alors je sais que les collectionneurs sont nombreux, on collectionne beaucoup de choses, très variés et insolites, mais là aussi, c'est une manière de vouloir montrer des choses variées et qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes
c'est
collections.
C'est pas toujours les étiquettes de camembert et les petites cuillères.
Ni les capsules de champagne.
Ah voilà. Eh bien, on a fait un grand tour, ma foi, aujourd'hui. Il faudrait que tu reviennes, Alain, parce qu'on a encore des tas de choses à voir ensemble, beaucoup plus sérieuses d'ailleurs, mais on a été heureux de passer ce moment avec toi. C'était très gentil de venir. C'était aussi très léger pour ces émissions qui vont avec le soleil que nous avons toujours ici, c'est bien connu.
Oui, merci. Merci aussi à toi. Merci à toute l'équipe de Radio Grand Ciel qui nous entoure dans le cadre de cette émission. Je voudrais dire que ces échos de notre commune, c'est maintenant depuis de nombreuses années.
C'est vrai.
Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à y participer, à venir parler à la fois de ma commune, mais aussi de choses un petit peu extérieures. Nous avons parlé beaucoup d'agglomérations, beaucoup de départements. En tout cas, c'est bien de donner la parole aux maires, à tous ces maires et à tous ces élus, je ne parle pas pour moi, mais qui souvent travaillent dans l'ombre, eux aussi avec beaucoup d'humilité.
Alain, merci. Ces émissions étaient réalisées par Émilie Glory et enregistrées par Pierre Écart. À bientôt, chers auditeurs.